Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Pierrot et la Miji.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. 7,1 milliards de dollars américains, c'est le montant du budget 2021 adopté par l'Assemblée nationale les jeudis en priorisant les secteurs sociaux en faveur de la population. Notons qu'élaboré dans un contexte international marqué par la pandémie de COVID-19, la loi de finances de l'exercice 2021 est qualifiée d'espoir par la présidente de l'Assemblée nationale. Des milliers de personnes déplacées vivent dans des conditions non seulement difficiles mais aussi atroces dans le territoire de Masisi au nord Kivu. Ces personnes ont fui les affrontements entre les FARDC et les groupes armés dans plusieurs localités. Innocent Dounia, c'est notre invité, le chef d'antenne de RCN, Justice et Démocratie pour la ville de Lubumbashi, nous parle de l'affichage des tarifs judiciaires, une opération qui vise l'amélioration de l'administration de la justice. Vous les suivrez avant la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Ouverture ce vendredi à Kinshasa des travaux de la 48e Assemblée plénière virtuelle de la SADC. Et c'est pour la première fois que la RDC abrite ses travaux du forum parlementaire de la SADC. Dans son mot d'ouverture, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a retracé la relation historique qui lie la RDC à la SADC remontant à l'année 1998 lors de la guerre d'invasion à l'Est. Pour sa part, dans son mot de bienvenue, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, a insisté sur l'impact négatif de la COVID sur les économies nationales et particulièrement la situation déjà précaire de la femme africaine. L'Assemblée nationale a adopté jeudi le rapport de la Commission économico-financière relatif au budget 2021 moyennant les observations et recommandations estimées par le gouvernement à 6,9 milliards de dollars. Le budget 2021 est revu par l'Assemblée nationale à 7,1 milliards de dollars en priorisant les secteurs sociaux en faveur de la population. Élaboré dans un contexte international marqué par la pandémie de COVID-19, la loi des finances de l'exercice 2021 est qualifiée d'espoir des changements des travaux. Par la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, est au micro de Michel Kifindangoy.
Dans ce contexte particulier où la deuxième vague plus forte de la pandémie de la COVID-19 frappe à nouveau le monde et la RDC, l'adoption du budget 2021, le deuxième budget impulsé sous la houlette du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, vient nous rappeler que 2021 doit être pour les 86 millions de Congolais un signe d'espoir, un signe de changement, un signe de travail. Nous sommes là donc pour apporter des réponses aux désiderata des citoyens, leur souhait d'unité et de paix. Une paix consolidée par l'héritage d'unité que nos prédécesseurs nous ont légué. Nous devons également être sensibles à leurs vœux pour une éducation meilleure de leurs enfants, leurs soucis pour les jeunes diplômés en proie au chômage ou au sous-emploi, ainsi qu'à leur volonté de nourrir et soigner mieux leurs familles.
8 morts et 6 blessés, c'est le bilan d'une nouvelle attaque perpétrée par des miliciens de la Force patriotique intégrationniste du Congo, FPIC, au village Babukela, dans la chefferie des Babelebe. Parmi les victimes, affirme un député provincial élu de la circonscription électorale du Rumo, figure un enfant de moins de 7 ans décapité à la machette. Les victimes sont des retournés de guerre qui avaient fui les exactions de ces mêmes assaillants dans la zone. Des sources sécuritaires dans la région rapportent que ces inciviques seraient des mèches avec un groupe de miliciens de la Codeco dans cette région située à 10 km de la ville de Bounia. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est aux environs des 4 heures locales que ces miliciens ont attaqué ce village situé au centre du groupement Tondabo, au sud du territoire d'Irumu, profitant d'une petite accalmie qui régnait dans la zone. Ces miliciens, munis d'armes blanches et des fusils de guerre, ont tiré plusieurs coups de feu avant d'encercler plusieurs habitations. C'est à ces moments qu'ils ont abattu 8 personnes. D'autres ont été découpés à la machette, dont un enfant de moins de 7 ans. À l'heure qu'il est, le bilan définitif n'est pas encore connu. Toutefois, plusieurs sources sécuritaires avancent un bilan lourd que nous n'avons pas encore eu à joindre. Entre-temps, plusieurs habitants sont portés disparus, d'autres ont pris la direction des villages environnants où elles ont trouvé refuge. C'est ce qu'affirme Wilson Mugara, député provincial et élu de la circonscription électorale d'Irumu. Cet acteur politique précise que parmi les blessés, 3 sont dans un état critique. Ils ont été acheminés dans une structure sanitaire de la place où ils sont soignés. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
19h05 dans le territoire de Masisi, c'est au nord Kivu où une importante frange de la population endure des souffrances atroces dans les camps de déplacés et dans des familles d'accueil. D'après le député provincial élu du coin qui alerte les autorités, ce sont des milliers de personnes qui ont fui les récents affrontements entre les groupes armés, mais aussi la traque des FARDC contre ces mêmes groupes. C'est dans plusieurs localités, dans les secteurs Osso, Banyungu et Katoy. Alexis Baunga Malira sollicite une intervention urgente en faveur de ces populations. Sifa Maguru pour les détails.
Dans une correspondance adressée au gouverneur du Nord Kivu le 1er décembre, et dont copie a été réservée aux humanitaires et autres organisations, cet élu de Masisi qualifie de désastreuse la situation humanitaire des déplacés dans la chefferie des Bachali et des Baoundé. La plupart des populations ont fui des violents affrontements tout récemment entre l'armée régulière en opération de traque contre les forces négatives dans la région de Nyabiondo, Bukombo, Loachi, Mianja jusqu'à Pinga. Alexis Baoundé Ngamalira explique.
Et voilà donc ce qui nous a motivé à adresser notre correspondance au gouverneur pour qu'une assistance en vivre et à nos vivres soit faite urgemment à cette population-là, mais aussi qu'une assistance aux élèves qui ne sont pas en train d'étudier soit faite pour que ces enfants puissent regagner urgemment le chemin de l'école, parce que beaucoup d'écoles ont fermé, beaucoup de matériels des écoles ont été pillés, et essayer de soulager la misère qu'en dire nos compatriotes qui sont dans ces cas.
Dans la même lettre, l'élu local demande au gouverneur de solliciter auprès des organismes humanitaires et agences des Nations Unies d'aller en rescousse de ces populations en attendant le rétablissement de la sécurité dans la zone. Goma Sifamaguru, Radio Kapi.
Rendons-nous dans la région du Kasaï où le HCR a assisté plus de 40 000 victimes des accrochages des Bakwankenye dans le cadre d'une réponse d'urgence. À travers cette assistance, cette agence du système des Nations Unies leur a remis du cash ainsi que des articles ménagers essentiels. Les bénéficiaires qui se retrouvent en territoire de Mouika au Kasaï et à Demba dans le Kasaï central indiquent que cette assistance va leur permettre de redémarrer leurs activités perturbées par les accrochages. Explication Blaise Ndongala.
Les bénéficiaires du HCR se comptent parmi les déplacés internes ainsi que les familles d'accueil des territoires de Mueka et Demba. À travers cette assistance, ils ont reçu de l'argent ainsi que des articles ménagers essentiels, parmi lesquels les nattes, les moustiquaires, les savons, les ustensiles de cuisine et autres. La chargée des relations extérieures du HCR explique que cette assistance s'inscrit dans le cadre des réponses d'urgence aux personnes ayant subi des violences en août dernier. Lubiana Gospel Servet.
Le HCR a déployé une équipe d'urgence pour venir sur place observer les besoins. On a enregistré beaucoup de déplacés internes ainsi que des familles qui accueillaient donc ces déplacés et nous avons souhaité les assister pour leurs besoins urgents et en tout ça fait à peu près 43 000 personnes. C'est les personnes qui ont dû fuir si vous voulez à cause du clash, qui ont perdu leurs abris, qui ont perdu même des membres de leur famille, qui ont subi beaucoup de violences. Donc comme ça les déplacés, c'est aussi le travail du HCR que de les protéger.
Cette assistance a permis aux uns d'entamer les activités génératrices des revenus et aux autres d'acheter des matériels aratoires et semences pour les activités champêtres. Pour rappel, en août dernier, les violences communautaires enclenchées à Bakwankenye avaient causé plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines. De Kananga, Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Justice dans ce journal, le tribunal de grande instance de Tchiela dans la province du Congo central, siégeant en matière répressive du 27 octobre au 6 novembre dernier en chambre foraine sur l'affaire Percy Mwamba et Max Tumba, deux frères jumeaux brûlés vifs le 30 juillet à Kinza Umvwete dans les territoires de Sekebanza, vient de rendre son jugement ce jeudi. 12 personnes parmi les 23 présumés meurtriers de ces jumeaux en détention préventive à la prison centrale de Matadi écopent d'une peine de mort. À l'issue de ces verdicts, le procureur général près le parquet du Congo central, Godé Kenekene, a déclaré que ces drames n'avaient rien de la xénophobie. Les détails, Nana Plus Riche Mambou.
Pour Rémi Kabassé, les représentants de la famille de ses jumeaux, enfin, ses frères reposeront en paix car les personnes qui ont causé leur mort ont subi la rigueur de la loi. D'après Maître Nicolas Mbouy, avocat de la partie civile, parmi les 25 personnes citées dans ce meurtre, le tribunal a décidé de disjoindre les poursuites contre deux des prévenus. 12 prévenus ayant été reconnus coupables de ce meurtre écopent d'une peine de mort. 3 des 12 ont été reconnus aussi coupables de l'infraction de participation criminelle. 9 ont été acquittés pour non-établissement de l'infraction des meurtres. La constitution des parties civiles ont été dites recevables et fondées. Par conséquent, les condamnés doivent payer 10 000 dollars à chacun des jumeaux assassinés en dommages et intérêts. Les représentants de la famille des jumeaux s'est dit satisfaits du verdict. D'après Rémi Kabassélé, la forte sentence qu'a subi ces inciviques prouve à suffisance que cet assassinat, par rapport aux rumeurs distillées sur les réseaux sociaux, lesquelles rumeurs ont terni l'image du Congo central, n'avait rien du tribalisme ni des xénophobie. Godé Kenekene, procureur général du Congo central, qui a également pris part active à ces procès, affirme aussi que cet incident n'avait rien de tribal. Ce n'était qu'un malentendu et il décourage vivement la population de se faire justice. De Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
L'intersyndicale de la RTNC s'oppose à l'installation des services de l'état-major général des forces armées de la RDC à l'hôtel Invest, propriété de la radio-télévision nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Dans une déclaration faite à Radio Okapi ce vendredi ici à Kinshasa, le président de l'intersyndicale de la RTNC, Joseph Chibangu Kaboy, estime que l'hôtel Invest n'est pas un endroit approprié au service de l'armée, car situé juste à proximité du siège de la radio-télévision nationale congolaise. On l'écoute au micro de Sarah Sumbela.
L'intersyndicale s'oppose à ce que on nous propose un locataire parce que la procédure, disais-je, est au départ biaisée. L'hôtel Invest, c'est un patrimoine privé de la RTNC. À ce titre, si la RTNC voulait l'aliéner ou bien trouver un locataire, il devait lancer un appel d'offres, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Deux, l'intersyndicale s'oppose à cette démarche parce que les locataires que l'on veut imposer à la RTNC, ce sont des militaires. C'est tout le ministère de la Défense avec tout un bataillon. Imaginez-vous, les travailleurs qui doivent travailler dans un environnement serein ont à leur côté un bataillon de militaires. Donc, ils seront en permanence stressés. Ils vont travailler dans l'angoisse et travaillant sous le stress, les conditions psychologiques, psychophysiologiques des travailleurs vont perturber le résultat auquel l'employeur peut s'attendre. Donc, ils ne pourront pas bien travailler dans cet environnement malsain.
Dans le territoire de Lubero, les enseignants de l'école primaire KMB dans la commune rurale de Kanyabayonga abandonnent les élèves depuis jeudi à leur triste sort. D'après la société civile locale, cette situation est due à l'arrestation la veille du directeur de la dite école et son adjoint par les services des renseignements civils. Grâce à Mzati pour les détails.
Le directeur Muindo Kanakato Vasco et son adjoint sont accusés d'avoir fait payer 3000 francs congolais par élève pour le premier trimestre à titre des frais scolaires. Ils ont à cet effet passé toute la journée du mercredi au cachot pour être libérés dans la soirée, moyennant 36 000 francs congolais. Pour exprimer leur mécontentement, tous les enseignants de cette école matriculée et nouvelles unités ont déclenché une grève en guise de solidarité avec leurs dirigeants. D'après eux, les 3 000 francs congolais payés par les parents permettent de motiver les enseignants nouvelles unités en attendant que le gouvernement les prenne complètement en charge. Daniel Sengemoja, président de la société civile de Kanyabayonga, condamne l'arrestation de ses chefs d'établissement scolaire et appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités en main. Contacté, le chef de la sous-division de l'EPST Kirumba Kanyabayonga confirme la nouvelle de l'arrestation. Cependant, Richard Mouvunga indique que l'argent perçu ne constitue pas les frais scolaires, mais plutôt les frais de survie que les parents ont décidé de donner aux enseignants nouvelles unités en guise d'encouragement en attendant leur prise en charge par le gouvernement. Tous nos efforts pour avoir la réaction du responsable du service des renseignements civils incriminés n'ont pas abouti. Boutembo, grâce. Amuzati, Radio Kapi.
Pour combattre la deuxième vague de la COVID-19, Caritas Congo, Asbel et CDC Africa ont décidé de contribuer à contenir la propagation de cette pandémie et à la réduction de la morbi-mortalité dans les provinces de Kinshasa et de l'Équateur. Ce projet a été lancé ce vendredi dans la ville de Kinshasa par le chef de la division provinciale de la santé. Pendant 3 mois, les membres des relais communautaires sensibiliseront la population sur les mesures barrières dans les 5 zones de santé pilotes telles que Bandalungwa, Kintambo, Binzamete, Matteo, Mbiza Delvo et Mongafula 1. Le secrétaire exécutif de Caritas Congo, Boniface Nwakagelewi, explique l'importance de ces projets au micro de Richard Junior Kamunga.
Depuis la levée de l'état d'urgence décrété par le président de la République, il y a un relâchement total de la population quant au respect des gestes barrières ici dans la ville de Kinshasa et même en province. Entre-temps, le nombre de cas augmente. Pour ce, il est important d'attirer l'attention de notre population que cette pandémie COVID-19 risque de progresser très vite dans cette province et si des mesures barrières édictées par le ministère de la Santé sous le pilotage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne sont pas appliquées correctement. Plusieurs causes sont à la base de ce comportement. Donc, d'abord, du côté des prestataires de soins, il y a déficience communicationnelle.
Actualité internationale.
La composition du Conseil national de transition est désormais connue au Mali. Le dernier organe de transition avec une fonction législative était très attendu. Les autorités maliennes ont publié jeudi soir la liste de ses 121 membres. C'est une liste qui joue la transparence, mais qui est en réalité très floue. Elle est transparente parce que les 121 personnes qui se sont vues attribuer des sièges sont nommément citées. Mais elle reste floue parce que pour aucun de ces noms n'est précisé le groupe auquel il appartient. De sorte qu'il est impossible de dire si la répartition entre partis, syndicats, militaires qui avait été fixée par les autorités et qui était déjà très contestée a été respectée.
L'invité.
Comme je le disais dans le titre, le lancement ce mercredi à Lubumbashi de l'affichage des tarifs judiciaires organisé par l'ONG RCEL, Justice et Démocratie, en collaboration avec le groupe thématique Justice et Droits Humains du ministère de la Justice et du Conseil supérieur de la Magistrature. Cette opération vise l'amélioration de l'administration de la justice. Pour en parler, le chef d'antenne du RCEL, Justice et Démocratie pour la ville de Lubumbashi est notre invité et il s'entretient avec Jean Gandou, c'est Innocent Dounia.
Innocent Dounia, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de la rencontre que RCN a organisée en ce jour?
On peut retenir que, à l'occasion de l'affichage des tarifs judiciaires, lancé à Lubumbashi avec le concours du groupe thématique Justice et Droits Humains du ministère de la Justice et du Conseil supérieur de la Magistrature, il fallait bien expliquer le contexte dans lequel se place cette activité et l'intérêt vis-à-vis de l'amélioration de l'administration de la justice afin de garantir un accès facile, un accès libre, un accès équitable des justiciables aux services judiciaires.
En quoi consiste l'affichage?
L'affichage consiste en la pose des tarifs judiciaires qu'on a tiré de l'arrêté interministériel de 2017 qui fixe les taxes redevances à l'initiative du ministère de la Justice. Mais on a extrait avec le concours du ministère de la Justice juste les éléments qui concernent l'administration de la justice au niveau pénal, au niveau civil, des juridictions ordinaires. Donc il y a des panneaux qui vont être affichés au niveau de la cour d'appel du Haut-Katanga, au tribunal de grande instance du Haut-Katanga, et aux trois tribunaux de paix du Haut-Katanga, donc Lubumbashi Ruashi, Lubumbashi Katuba et Lubumbashi Kamalondo. Et ces affiches vont être placées dans les greffes en supposant que c'est l'endroit où le justiciable, à la rencontre de l'administration de la justice, reçoit l'information auprès du greffier sur qu'est-ce qu'il doit payer par rapport à un acte judiciaire. Mais on le fait aussi un peu dans les couloirs, donc à des endroits qui sont accessibles à la justice.
Quelle garantie avez-vous que ces différentes tarifications seront respectées?
Autour de l'activité d'affichage, il y a d'autres rencontres avec les responsables de l'administration de la justice ici, évidemment avec le barreau du Haut-Katanga. Les avocats jouent également un rôle important dans l'administration de la justice, étant donné que c'est l'intermédiaire entre l'appareil judiciaire et le justiciable. Avec eux, on va rester en relation et puis on va essayer de sensibiliser davantage les organisations de la société civile pour qu'elles puissent sensibiliser les justiciables. Donc, l'affichage est un fait, mais au-delà de l'affichage, On va faire aussi de la vulgarisation de ces frais-là et au besoin, les mettre même, donner de la signification dans les langues locales. Bon, ici, ce sera le swahili, pour que le justiciable sache exactement qu'est-ce qu'il paye. Parce que quand on parle de frais de consignation, qu'est-ce que ça signifie pour le justiciable? Il faut trouver des mots qui traduisent un peu le terme consignation. Les frais d'appel, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Les frais de non-appel, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Donc, il y a un travail encore à devoir faire avec le concours de la société civile ainsi que des médias pour renforcer un peu le niveau de connaissance et de vigilance des justiciables de la ville de Lubumbashi.
Qu'adviendra-t-il si les gens ne le respectent pas?
S'ils ne le respectent pas, évidemment, il y a des mécanismes de collaboration avec les autorités judiciaires hiérarchiques, donc au niveau de la province. Ça, c'est de un, parce que l'idée pour RCN, ce n'est pas de s'ériger en un inspectorat judiciaire, non. L'idée de RCN, c'est de pouvoir appuyer les forces et les institutions qui existent sur leur rôle et leurs attributions. Donc, s'il y a des limites, raison pour laquelle on a été avec le Conseil supérieur de la magistrature représenté ici, eh bien, on sait sur quelle porte toquer pour pouvoir obtenir ce qui semble ne pas être effectif.
Pourquoi ne pas aussi organiser de telles séances avec, d'une part, les magistrats et de l'autre, les avocats dans leur corporation que d'être représentés?
Ça, ce sera fait la semaine prochaine. Il y aura une formation de 2 jours pour chaque groupe. Donc, le premier groupe, c'est les avocats. Le deuxième groupe, c'est les magistrats. Le troisième groupe, ce sera les organisations de la société civile et les médias. Et le quatrième groupe, les agents de l'ordre judiciaire, greffiers, secrétaires, voilà, les officiers de police judiciaire. Donc, là, on pourra maintenant entrer par rapport à la spécificité de chaque corps, entrer dans les détails sur les défis, sur les difficultés, mais également sur les pratiques. Donc, la formation, c'est autour de la corruption et les infractions assimilées à la corruption selon le code pénal congolais. Mais puisque le monnayage est aussi parmi les pratiques corruptives, donc ce sera l'occasion de parler en détail avec ces différents acteurs, mais dans des groupes tout à fait homogènes.
Innocent Dounia, je vous remercie.
Je vous remercie, vous aussi, Jean Gandou.